Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette rubrique portrait de l'émission Un jour dans l'histoire. Aujourd'hui, nous vous proposons le portrait d'un prince, ou plutôt d'un roi, et même de notre dernier roi, il s'agit d'Henri V, entré dans l'histoire sous le nom de comte de Chambord. Le comte de Chambord, c'est bien sûr l'enfant du miracle, né en 1820, 7 mois après l'assassinat de son père, le duc de Berry. Mais le comte de Chambord, c'est aussi et surtout l'un des exils les plus longs du XIXe siècle. Un exil qui ne l'empêchait pas, bien au contraire, de se trouver au cœur des enjeux politiques de la France, et exil qui lui permit aussi de se préparer à son accession au trône, qui en 1873 apparut comme certaine, avant d'être ruinée par son attachement au drapeau blanc. Alors dès ce moment-là, le comte de Chambord devint l'homme rigide et intransigeant responsable du naufrage de la monarchie. Celui d'ailleurs que Charles Maurras qualifiait de prêtre et pape de la royauté plutôt que roi. Mais n'est-ce pas là une vision simpliste? En réalité, qui fut vraiment Henri V? Quelle fut sa raison d'être? C'est ce que nous allons voir dans cette émission aujourd'hui. Daniel de Montplaisir, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au micro de Canal Académie. Nous allons donc évoquer le comte de Chambord. Vous lui avez consacré une biographie parue aux éditions Perrin. Et je précise à nos auditeurs que vous êtes conseiller d'État et historien. Vous vous intéressez à la monarchie. Et titre d'ailleurs d'un de vos ouvrages paru au Cavalier Bleu dans la collection Idées reçues. Est-ce bien ça?
C'est tout à fait ça.
Revenons au comte de Chambord. Et j'ai envie de dire, on va presque commencer par la fin. Mais que reste-t-il du comte de Chambord et pourquoi lui avoir consacré une biographie?
Alors, j'ai consacré une biographie au comte de Chambord pour plusieurs raisons. La première, c'est que jusqu'en 1932, il est mort en 1883, entre 1883 et 1932, il a été publié à peu près 70 biographies du comte de Chambord. Ce qui fait qu'à l'époque, c'est le personnage de l'histoire sur lequel on avait le plus écrit, après, tenez-vous bien, Napoléon et Louis XIV. Voilà. Et devant Jeanne d'Arc. Bon. À partir de 1932, vous avez bien fait de citer Charles Maurras, le comte de Chambord disparaît de l'histoire, disparaît de la mémoire, parce que le royalisme français est à peu près complètement monopolisé par l'Action française et par Charles Maurras, qui considérait que les héritiers du trône de France étaient la famille d'Orléans et non plus la famille de Bourbon aînée, qui s'était éteinte avec la mort du comte de Chambord. Donc le comte de Chambord avait une image d'un personnage poussiéreux auquel on avait offert le trône sur un plateau d'argent quasiment après la défaite de Sedan, après l'écroulement du Second Empire, une première fois en 1871 et une deuxième fois, vous avez bien fait
oui,
de le rappeler,
on va y revenir,
en 1873. Donc on croyait que tout avait été un peu dit sur cet homme qui était en quelque sorte un serial loser. Il avait raté à peu près toutes les occasions qui s'étaient présentées à lui de remonter sur le trône, jusqu'à ce que le hasard des recherches historiques me fasse découvrir ces papiers perdus, que l'on croyait perdus et qui en fait somnolaient dans une petite ville d'Italie à Luc. Et donc l'examen approfondi de la totalité de ces archives, de ces papiers personnels, permettait de redécouvrir la vie, l'existence, les idées, les projets, les motivations du prince, et d'où la publication de ce livre en 2008.
Et permet en effet une nouvelle vision du prince. Alors on va revenir à la naissance, puisque en effet les circonstances de cette naissance sont extraordinaires quelque part. Il faut peut-être le resituer tout simplement, préciser qu'il était le petit-fils de Charles X et donc le fils posthume du duc de Berry.
Oui, alors on peut le resituer. Alors, il est le petit-fils du comte d'Artois, qui n'est pas encore Charles X. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Le plus simple, c'est de se placer en 1815, après les 100 jours et le retour de la monarchie. Louis XVIII était probablement impuissant. Il était veuf et il n'avait pas d'enfant et il était trop âgé pour en faire. Son frère, le comte d'Artois, avait deux fils. Comte d'Artois, futur Charles X, avait deux fils, le duc d'Angoulême, probablement impuissant également, et le duc de Berry, qui lui, au contraire, était le contraire d'un impuissant. C'était un coureur de jupons absolument incroyable et c'était le seul qui pouvait fournir un héritier au trône. Donc en 1816, on le marie avec une Bourbon Sicile, qui devient donc la duchesse de Berry, qui fait plusieurs enfants mort-nés ou morts en bas âge, et puis qui fait une fille. Et là, l'angoisse commence à monter, puisqu'on est en 1818, 19, 1820, et il n'y a toujours pas d'héritier au trône. Et les Bourbons savent très bien que s'il n'y a pas d'héritier d'enfants masculins qui puissent prendre l'héritage, la situation de l'avenir de la Restauration est remis en cause. Et en février 1820, le ciel retombe une nouvelle fois sur la tête des Bourbons. Le duc de Berry, seul en situation de pouvoir donner un héritier au trône, meurt assassiné, poignardé par un bonapartiste. Et là se déroule une scène d'anthologie, une scène à la Corneille, c'est-à-dire que le soir même de l'assassinat du duc de Berry dans le foyer de l'opéra, au moment de son agonie, il révèle que sa femme, la duchesse de Berry, est enceinte une nouvelle fois. Et de cette grossesse annoncée va s'ouvrir une période de suspense, si on peut dire, de 7 mois, parce que est-ce que la duchesse de Berry va accoucher d'un enfant viable et surtout, est-ce qu'elle va accoucher d'un fils? Et le 29 septembre 1820, elle accouche d'un petit garçon prénommé Henri, qu'on appelle en effet l'enfant du miracle, parce que cette fois-ci, apparemment, la Providence, après avoir châtié les Bourbons, leur fait le bonheur de leur offrir un héritier.
Mais comme vous le rappeliez à l'instant, le comte d'Artois n'est pas encore roi de France.
Alors en 1820, le comte d'Artois n'est que le frère de Louis XVIII, avec lequel il s'entend plus ou moins bien, parce que Louis XVIII est un homme plutôt pragmatique, alors que le comte d'Artois, son frère, est un homme de principe, mais qui monte sur le trône 4 ans plus tard, en 1824. Et d'ailleurs, ça durera toute la vie de Charles X. Il se noue tout de suite entre la naissance de ce petit-fils et le grand-père, une de ces relations un petit peu particulières, très tendres entre grand-père et petit-fils, qui fait que, sans doute trop longtemps peut-être, Henri V va demeurer extrêmement fidèle à la mémoire de son grand-père et aux idées assez conservatrices de celui-ci.
Alors finalement, donc en 1824, quand Charles X accède au trône, le comte de Chambord a 4 ans. Et quelle va être l'éducation qu'il va recevoir? Qui va l'élever, cet enfant?
Alors d'abord, il porte le titre de duc de Bordeaux à ce moment-là. C'est un peu compliqué, il a 3 noms, hein, parce que en 1800, Louis XVIII, son grand-oncle, avait décidé que l'héritier du trône porterait le titre de duc de Bordeaux en honneur à la ville de France qui, la première en 1814, s'était soulevée contre Napoléon. Il porte le prénom Henri, puisque la référence des Bourbons, c'est Henri IV. Et donc, quand il montera sur le trône, il sera Henri V. Et on tient beaucoup à ce que donc Henri V succède dans l'image populaire à Henri IV. Et à sa naissance, on lui offre en cadeau le château de Chambord. Par une souscription nationale, mais il ne portera le titre de comte de Chambord que beaucoup plus tard en exil. Alors c'est une enfance princière tout à fait classique, extrêmement choyée, plus choyée que les autres, parce que s'il disparaît, c'est l'impasse. Il n'y aura pas d'autre héritier du trône. Donc il est complètement adulé par son grand-père, adulé par la cour. Il
bénéficie, adulé par sa mère,
bien entendu, mais qui veuve commence à vivre quand même une vie un petit peu indépendante, tout en étant extrêmement attentive et fidèle à l'éducation de son fils.
Et dévouée à son fils.
Et très, très, très dévouée à son fils. Elle le montrera après la révolution de 1830, quand elle essaiera de soulever la Vendée pour ramener la couronne sur la tête de son fils, à qui Louis-Philippe l'aura volé.
Voilà, parce que donc en 1830, la révolution de juillet met fin au règne de Charles X. Et donc, c'est Louis-Philippe qui arrive au pouvoir, contre toute attente d'ailleurs des Bourbons. Alors là, que se passe-t-il pour le comte pour le duc de Bordeaux,
qui va devenir, qui a 10 ans.
Qui a 10 ans
à l'époque. Alors, il se passe 2 choses. Premièrement, sur le plan purement pratique, c'est le départ en exil avec son grand-père, sa mère et son oncle, le duc d'Angoulême, qui, je le répète, n'avait pas eu d'enfant. Mais il se passe aussi, deuxièmement, quelque chose dans l'esprit, dans les mentalités. C'est-à-dire que à partir de août 1830 et le départ en exil, dans la tête de ce petit garçon de 10 ans s'inscrit une haine de l'usurpation, une haine de la Révolution et une haine de la famille d'Orléans, que lorsque j'ai pu faire ces recherches sur les pensées intimes du comte de Chambord, je me suis rendu compte que cette haine était beaucoup plus forte qu'on ne le croyait jusque-là.
Mais là, il y a déjà quelque chose en 1830 qui est étonnant. Donc, le duc de Bordeaux a 10 ans et Charles X choisit d'abdiquer en la faveur de son petit-fils et non pas en faveur de son fils, donc le duc d'Angoulême, appelé par certains Louis XIX. C'est très étonnant. Alors cette attitude. Ça pesera beaucoup dans l'avenir du duc de Bordeaux.
Vous avez tout à fait raison de le rappeler, j'ai oublié de le dire. Le duc d'Angoulême a même été Louis XIX pendant trois quarts d'heure.
Oui, c'est vrai.
Parce que lorsque Charles X, la Révolution surprend la famille royale à Saint-Cloud, parce que c'est la résidence d'été, on fuit tout en essayant de négocier, ce qui n'était pas le plus habile. On n'est pas là pour parler de la Révolution de 1830, mais on pourrait la résumer en disant c'est un mai 68 qui a réussi. Parce que ce n'est qu'une émeute parisienne.
C'est une émeute parisienne, mais le rôle de Louis-Philippe est très particulier.
Voilà. Le rôle de Louis-Philippe est très particulier, mais tout ça se passe dans quelques arrondissements de Paris. La couronne parisienne, déjà, n'est pas concernée. L'Île-de-France et la France entière ne sont pas du tout concernées par la révolution de 1830, qui n'est pas une révolution de palais, qui est une révolution de rue. Mais je vous dis, c'est un mai 68. C'est le quartier latin bourgeois qui se révolte. Donc Charles X commet l'erreur du point de vue de la légitimité, bien sûr, d'essayer de négocier avec son cousin tout en fuyant. Il quitte Saint-Cloud pour se réfugier d'abord à Trianon, puis à Rambouillet. Et à Rambouillet, constatant que tout est perdu, il décide d'abdiquer et de confier la lieutenance générale du royaume au duc d'Orléans. Alors, normalement, s'il abdique, alors jamais aucun roi de France n'avait abdiqué. Bon, c'est une première dans l'histoire. Normalement, du moment que le roi abdique, c'est le dauphin, dont son fils aîné, le duc d'Angoulême, qui doit porter la couronne. Mais Charles X considère que son fils est tout aussi discrédité que lui. À tort ou à raison, peu importe. Et en plus, le duc d'Angoulême n'a pas d'enfant. Donc, il préfère, sur les conseils de plusieurs personnages qui sont autour de lui, et notamment du gouverneur du duc de Bordeaux, le baron de Damas, il préfère abdiquer en faveur de son petit-fils parce qu'il a 10 ans et parce que le petit garçon est vierge de toute adhérence politique. Donc c'est pourquoi, alors l'abdication est double, Charles X abdique, à ce moment-là le duc d'Angoulême devient Louis XIX et le duc d'Angoulême devenu Louis XIX contre-abdique pour que devienne roi de France le petit duc de Bordeaux sous le nom d'Henri V.
Bon, finalement, tout ça ne débouchera sur rien.
Dure quelques jours.
La famille royale part en exil. Où vont-ils se réfugier ?
Alors, ils se réfugient d'abord en Angleterre, parce que, bon, d'abord, on hésite. Le départ en exil a été quelque chose d'assez ubuesque, d'ailleurs, puisque Charles X accepte de partir, mais il veut partir en roi. Alors, il met 3 semaines pour aller de Rambouillet jusqu'à Cherbourg. La famille part d'abord en Angleterre, puis en Écosse, et puis finalement dans l'Empire d'Autriche, puisque les Bourbons étaient très catholiques. Et donc, ils préféraient demander asile aux Habsbourg, qui étaient également des catholiques, qu'à l'Angleterre protestante.
Alors là aussi, plusieurs résidences vont être trouvées avant qu'ils s'installent définitivement, ce qui restera le lieu d'exil du comte de Chambord, qui est Frohnsdorf.
Alors, Frohnsdorf est acheté en 1845 et devient la résidence du comte de Chambord. Donc, il a 25 ans à ce moment-là, jusqu'à sa mort. Il ne quittera jamais. Il a également une résidence à Venise, le Palais Cavalli, sur le Grand Canal, qui existe toujours. C'est le casino de Venise aujourd'hui. Ce sont ses deux principales résidences, mais la cour en exil a son siège à Frohnsdorf, en effet, qui est à 60 km au sud-ouest de Vienne. Et le château existe toujours.
Alors, comment va s'organiser la vie de celui qui prend le nom, à ce moment-là, de comte de Chambord? Et on peut expliquer pourquoi, peut-être?
Alors voilà, en 1845 et 1846, il se passe 2 choses importantes. D'abord, il devient le chef de la maison de France. Charles X étant mort en 1836 et le duc d'Angoulême étant mort en 1844. En 1845, il s'installe à Frohnsdorf. Il est le chef de la maison de Bourbon puisque son oncle et son grand-père sont morts. Il se marie avec une princesse de Modène, Marie-Thérèse.
Alors, on va peut-être dire 2 mots de ce mariage parce que la vie du comte de Chambord apparaît comme une succession de... Le deuil est très présent, bizarrement, dans sa vie, il perd souvent
Il vit entouré de morts, tout à fait.
Il vit entouré de morts. Et après, la question de son mariage devrait être l'épisode joyeux d'un jeune homme, il a 25 ans à peu près à l'époque, un peu moins. Et finalement, là aussi, le devoir et le dépit l'emportent sur son point de départ. Il tombe amoureux, finalement, de la sœur et il part dépit.
Il tombe amoureux d'une princesse de Modène et il la demande en mariage. Et à ce moment-là, elle, la dite princesse de Modène, révèle à son père qu'elle s'est déjà engagée auprès d'un prince espagnol, Bourbon d'Espagne. Le hasard de l'histoire faisant qu'en 1883, à la mort du comte de Chambord, c'est le dit Bourbon d'Espagne, cousin très éloigné, qui va devenir par les règles du sang l'héritier du trône de France alors qu'il n'en a strictement rien à faire. Et il lui a en quelque sorte fauché sa fiancée. Et un peu comme l'avait fait Mozart, il épouse la sœur.
Il épouse la sœur et la sœur est pourtant pas dotée de qualités. Enfin, si, peut-être, mais physiquement en tout cas, elle n'est pas connue pour sa grande beauté.
Alors la sœur déjà est un peu plus âgée, elle a 2 ans de plus que lui et 3 ans de plus que sa cadette. Elle est moins jolie, elle est moins pétillante, elle a le visage déformé parce que lors de sa naissance, les fers ont déformé son visage. C'est une personne un petit peu triste, extrêmement pieuse et qui très vite est atteinte de surdité. Et puis en plus, alors là...
Le drame du couple.
Voilà, le drame, pas d'enfant.
Pas d'enfant.
Couple. Alors ça, est-ce lui qui était impuissant? Est-ce elle? On n'en sait rien. On n'avait pas les moyens à l'époque de faire des analyses médicales.
Et même dans son journal, vous notez qu'il n'en parle absolument jamais.
Alors il n'en parle absolument jamais. Au début de son mariage, visiblement, ils essaient de faire des enfants. Ils n'y arrivent pas. Donc ils font des prières et des promesses à la Vierge Marie en lui promettant que si un héritier leur est donné, ils construiront une chapelle à tel endroit. Ils font des pèlerinages réguliers à Mariazell, qui est le sanctuaire marial de l'Empire d'Autriche. Donc, il cherche à faire des enfants, c'est incontestable. Et puis, évidemment, avec les années, on s'aperçoit que ça n'est plus possible et ça devient le drame de la vie du comte de Chambord. Évidemment.
Alors, on va peut-être revenir un peu aux éléments politiques. Mais avant, pouvez-vous finalement nous dresser un petit portrait physique et caractère du comte de Chambord en 1848, donc il a 28 ans. Je choisis cette date qui correspond à des événements politiques français. Et on reprendra les événements politiques après.
Alors, je n'ai pas tout à fait répondu à une petite question.
Oui, sur l'appellation du comte de Chambord.
Pourquoi il s'appelle comte de Chambord? Donc, au début, il est titré duc de Bordeaux. Quand Charles X abdique, il devient Henri V. Comme l'abdication ne fonctionne pas, puisque la famille royale part en exil et c'est Louis-Philippe qui devient roi des Français et non pas roi de France. Donc c'est un nouveau régime qui se met en place. Le duc de Bordeaux décide de prendre le titre de comte de Chambord parce que le château de Chambord est sa propriété personnel en France. Que d'ailleurs, le gouvernement de Louis-Philippe lui a contesté, mais il l'a contesté devant les tribunaux, et les tribunaux ont donné raison à Henri V, donc il a gardé la propriété du château de Chambord, qu'il n'avait jamais vu et qu'il ne verra jamais jusqu'en 1871. Il passera simplement 2 nuits dans le pavillon du gardien. Mais il est très attaché au château de Chambord. Il adore ce château, dont il ne connaît que des gravures et des tableaux, ce qui lui procure une partie de son revenu à cause de l'immense territoire de chasse et de bois qu'il y a autour de Chambord, et dont il s'occupe avec beaucoup de soins. Il y fait construire des écoles, il envoie beaucoup d'argent aux pauvres de la commune, etc. Le comte de Chambord, pour les habitants de Chambord, d'ailleurs, ils en ont longtemps témoigné, était un seigneur invisible mais pourtant présent parce qu'il s'occupait beaucoup de son domaine, et c'est la raison donc pour laquelle il avait pris ce titre. Alors en 1848, il est très différent de ce qu'il était petit garçon. Petit garçon, c'est un enfant fluet, blond, aux traits assez fins, aux yeux, comme on disait à l'époque, à fleur de tête, c'est-à-dire un petit peu globuleux. Il a servi de modèle à Saint-Exupéry pour les dessins du Petit Prince. Mais avec l'âge, il s'empâte, il mange énormément, il boit beaucoup. C'est pas un alcoolique, hein, mais c'est un bon vivant. Il mange surtout énormément de sucreries, il devient énorme. Pour 1m70, il va peser quand même jusqu'à 120 kilos. Il a même du mal à se tenir à cheval. Sa tête devient énorme. Il se laisse pousser barbe et moustache de façon pas très soignée. En plus, il perd ses cheveux. Donc, le joli petit garçon à la mine romantique devient un gros monsieur assez peu séduisant. Il le dit lui-même: sans mon principe, je ne suis qu'un gros homme boiteux.
Mais, voilà, boiteux, puisqu'il voilà. a fait...
Ah oui, parce qu'en plus, un accident de cheval fait qu'il a une jambe, hélas, il a une jambe un peu plus courte que l'autre. Alors il devient en plus boiteux, ce qui n'arrange pas évidemment son embonpoint. Donc physiquement, il a de loin un aspect disgracieux, mais de près, ça s'arrange. Et alors tous ses visiteurs, mais évidemment, la plupart de ses visiteurs sont des légitimistes, hein, sont acquis à sa cause. La plupart de ses visiteurs témoignent d'un homme qui avait une très belle voix, qui s'exprimait très bien, qui était extrêmement aimable, extrêmement avenant, très poli, très gentil, très courtois, extrêmement cultivé, avec des yeux pétillants, une grande intelligence, une grande culture, une immense érudition qui faisait que cet aspect physique un peu rébarbatif était largement compensé par le côté extrêmement aimable, un peu à l'ancienne France du personnage.
Et d'ailleurs, tout le monde se disait: dommage qu'on ne le connaisse pas en France.
Voilà. quel drame que la France ne connaisse pas. Il y avait même de jeunes filles qui, avec leurs parents, allaient à Frosdorf et qui, devant lui, paraît-il, s'évanouissaient.
Il est temps de faire une courte pause. Je vous rappelle que nous sommes avec Daniel de Montplaisir pour évoquer le comte de Chambord.
Environnement, développement durable, énergie verte, Canal Académie vous propose des émissions sur ces thèmes en compagnie d'académiciens des sciences, mais aussi avec des économistes et des historiens. Que ferons-nous sans pétrole? Comment stopper les augmentations d'émissions de gaz à effet de serre? Le nucléaire est-il la solution au réchauffement climatique? Quelle gestion économique de l'eau douce dans les années à venir? Faites le point sur ces questions en téléchargeant nos émissions sur canalacademie.com.
Vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, je reçois Daniel de Montplaisir, auteur d'une biographie du comte de Chambord. Nous venons de nous intéresser aux jeunes années du comte de Chambord. Passons maintenant aux événements plus politiques et donc nous revenons en 1848, qui est l'année où la famille d'Orléans va quitter le pouvoir, enfin chasser, ils vont être chassés, ils ne seraient pas partis. Alors juste, nous n'avons pas évoqué les rapports entre justement cette famille Orléans et le comte de Chambord depuis 1830.
Alors les rapports sont absolument calamiteux. À partir de 1830, le petit garçon de 10 ans sait qu'il est spolié de son trône et la France spoliée du droit de ses rois par la révolution qu'a récupéré Louis-Philippe, en plus dans des conditions, on n'a pas le temps de détailler ici, mais quand même pas très élégantes. Hein. Comme disait Chateaubriand, Chateaubriand dans les mémoires d'outre-tombe utilise à propos du duc d'Orléans l'image de quelqu'un qui est dans un palais en flammes et qui au lieu de répondre au cri d'un enfant dans son berceau, essaie de voler les meubles et les bibelots et les bijoux pour son propre compte. Et c'est vrai que la révolution de 1830 et la récupération par Louis-Philippe ressemblent à peu près à ça. Donc il y a eu une hostilité noire systématique de principe qu'il acquiert très jeune. En 1848, lorsque Louis-Philippe tombe, la légitimité en exil, le comte de Chambord est à Venise à ce moment-là, mais on pavoise, on illumine. La duchesse de Berry avait dit aujourd'hui je m'habille en rose et je fais la fête. Donc c'est la révolution de 1848 est ressentie par les légitimistes comme un juste châtiment de l'usurpation de 1830.
Mais le comte de Chambord va-t-il à ce moment-là essayer de reprendre son trône?
Alors il y songe parce que en 1848 la révolution chasse Louis-Philippe, mais elle proclame immédiatement la République. La stratégie qu'il adopte à ce moment-là, conseillé par son mentor le duc de Lévis, sur le moment paraît sage, avec le recul historique, c'était une erreur. Mais c'est toujours facile de juger, n'est-ce pas, a posteriori. En 1848, la logique du comte de Chambord et de ses conseillers, c'est de dire la France n'a pas chassé Louis-Philippe pour ramener la branche aînée. Elle a chassé Louis-Philippe et elle veut faire une expérience de république. Laissons-la faire son expérience de république. Cette expérience, de leur point de vue, va forcément échouer et à ce moment-là, la légitimité reviendra. La chose qu'ils n'avaient pas prévue, c'est qu'en effet, ils avaient raison, la République a échoué. Mais la chose qu'ils n'avaient pas prévue, c'était l'arrivée de Louis-Napoléon. Voilà.
Qui se montre plus habile.
Qui est beaucoup plus habile, qui est présent, qui est en France, qui a des partisans, qui lui s'agite énormément, alors que le comte de Chambord reste
distant,
lointain, sur ses principes. Il attend que la Providence l'appelle sur le trône de France, alors que lui, Louis-Napoléon, s'agite dans le sérail politique.
Donc Louis-Napoléon se fait élire d'abord président de la République en décembre 1848, puis petit à petit finit par rétablir l'Empire. Donc en 1852, la France rétablit l'Empire avec le Second Empire, ça va durer jusqu'en 1870. Et finalement, pendant ces années, les deux mots d'ordre des légitimistes, conseillés par le comte de Chambord, vont être abstention et implication.
Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Alors c'est un peu contradictoire et souvent difficile à comprendre. Souvent les royalistes de France l'ont mal compris. D'un côté, le comte de Chambord considère que le régime, que le Second Empire est un régime comme le régime de Juillet, le régime de Louis-Philippe, un régime illégitime. Mais c'est un providentialiste. Avant tout, il considère qu'il est dans les mains de Dieu et dans les mains de l'histoire. Et donc il laisse se dérouler l'expérience Second Empire, persuadé qu'un jour elle échouera. Qu'un jour la Providence le ramènera sur le trône, mais qu'il n'a rien à faire pour cela. Donc il fait deux choses. Premièrement, il interdit à ses partisans de participer à la vie politique. Et deuxièmement, il consacre quand même ses 18 années à préparer, lui, son programme politique pour le jour où, il n'en doute pas, il remontera sur le trône.
Alors, quel est ce programme politique grossièrement, on n'a pas le temps, bien sûr.
Non, alors ce programme politique, d'abord, il met à peu près une quinzaine d'années, parce qu'il commence à y travailler en 1853 et on peut considérer qu'il est achevé en 1868. C'est un programme très interactif, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire que sur les différents sujets, la politique agricole, la politique industrielle, la politique sociale, la politique militaire, la politique étrangère, l'organisation des institutions, l'organisation administrative, la décentralisation, la justice, absolument. Tous les sujets sont étudiés. Il demande des avis, il demande des mémoires, il les lit, il les annote, il les renvoie, il pose d'autres questions. Et il arrive à avoir une espèce de corps de doctrine à peu près sur chacun des sujets qui fait que le jour où il montera sur le trône, il sait quoi faire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le seul roi de France qui a eu le temps, forcément, puisqu'il était en exil, il a eu le temps. Lui, c'est le seul roi de France qui a un programme politique.
Oui,
tous
mais
les autres, ils
justement, est-ce là, tout ça n'est-il pas un peu trop théorique ?
Alors, le programme n'est pas élaboré de façon théorique, puisque justement, je dis, il utilise beaucoup les travaux des royalistes français. Mais en même temps, c'est quelque chose de purement livresque, parce que tout ça est synthétisé par le cabinet de Frohsdorff. Plus le temps passe, plus on s'éloigne de la France.
Même si, en 1870... comme s'y attendait le comte de Chambord depuis longtemps, à la suite de la défaite de Sedan, le Second Empire s'écroule, avec une vitesse d'ailleurs. Enfin, en quelques jours, le Second Empire est éliminé en deux jours. Et là, ça va être le gouvernement de la Défense nationale qui va lui succéder. Et l'entrée en scène, finalement, du comte de Chambord pendant, je dirais, deux bonnes années.
De bonnes années, mais un petit peu plus. Alors d'abord, il faut lui reconnaître une clairvoyance. Hein, c'est qu'en 1866, lors de la guerre entre la Prusse et l'Autriche, qui est remportée par la Prusse, la fameuse bataille de Sadowa, le comte de Chambord avait pressenti le risque de domination de la Prusse sur l'ensemble de l'Europe. Et il avait craint, en plus il avait, Frédéric Guillaume l'avait fait visiter les champs de manœuvre de l'armée prussienne, et le comte de Chambord avait écrit dans son journal, face le ciel, que l'armée française n'est pas à affronter cette armée-là, parce qu'elle est beaucoup plus moderne, beaucoup mieux équipée que l'armée française. Et après Sadowa, en 1866, il commence à craindre la domination de la Prusse. Mais évidemment, il n'est pas aux affaires, donc il est obligé de constater la réalité. Arrive en 1870 ce qu'on peut appeler la diabolique surprise. Maurras avait parlé de divine surprise en 1940. Là, c'est vraiment la diabolique surprise. C'est-à-dire que le comte de Chambord lui-même est évidemment très malheureux de la défaite française. Et comme on le sait, la Prusse ayant envahi la France... l'essentiel du territoire national, il faut faire la paix. Donc, des élections ont lieu, une assemblée nationale est élue pour décider de la paix ou de la guerre.
En février 1871.
Et sur 600 députés, il y a 400 royalistes. 400 royalistes qui veulent deux choses, faire la paix, parce que bon, la guerre est perdue, il n'y a pas de doute, faire la paix et ramener le roi, parce que les deux choses leur paraissent extrêmement liées, seul le roi pouvant garantir le redressement national après la défaite.
Et quel roi ?
Et quel roi ? Alors, on se met, les royalistes se mettent, parce qu'il y a, d'une part, on n'a quand même pas oublié que Louis-Philippe a été roi des Français jusqu'en 1848, et il a des descendants. Il a un petit-fils, qui est le comte de Paris. Assez vite, les royalistes se mettent d'accord en faveur du comte de Chambord, en considérant qu'il faut balayer toutes les expériences malheureuses du XIXe siècle, revenir à la légitimité, et les orléanistes se rallient assez facilement à l'idée que le seul roi possible, c'est le comte de Chambord, dans la mesure où,
n'ayant pas d'enfant.
Voilà, comme il n'a pas d'enfant et qu'il a quand même déjà 51 ans en 1871, c'est pas encore un vieillard, contrairement à ce qu'on a dit. Souvent, un homme de 50 ans dans la force de l'âge. Mais comme il n'a pas d'enfant, un jour ou l'autre, nécessairement, le comte de Paris lui a 18 ans de moins que lui. Un jour ou l'autre, nécessairement, le comte de Paris lui succédera.
Mais pourtant, cette fusion monarchique n'est pas si simple à faire.
Alors, la fusion monarchique n'est pas si simple parce que le comte de Chambord ne veut revenir au pouvoir qu'entouré d'un certain nombre de principes. Alors, le premier de ces principes, c'est qu'il est favorable à une monarchie constitutionnelle, mais pas une monarchie où le roi n'aurait aucun pouvoir. Il considère que le roi doit avoir une possibilité d'impulsion, de direction de la politique nationale. Alors que la majorité de centre-droit, où les orléanistes et les républicains modérés constituent la véritable majorité de la Chambre, eux sont plutôt évidemment partisans d'un régime parlementaire où ce sont les chambres qui dirigent. Et puis, deuxièmement, il est attaché à un certain nombre de principes. Et notamment, il ne peut pas supporter l'idée de régner sous le drapeau tricolore. Pour lui, c'est une affaire de principe, c'est une affaire de sentiment. On l'a beaucoup critiqué à cause de ça, mais il faut comprendre, pour lui, avoir au-dessus de lui le drapeau tricolore, qui est pour lui le drapeau de la Révolution, c'est comme si on lui imposait de siéger avec le portrait de l'assassin de son père au-dessus de lui. Pour lui, c'est ça. Donc c'est une affaire, cette couleur de drapeau, qui chez lui est viscérale et à laquelle il ne peut absolument pas accepter la moindre concession.
Alors, mais en 1870, on va revenir un peu sur les démarches qui sont tentées vers lui, peut-être, et le rôle de Thiers, surtout, dans toute cette affaire. Parce que Thiers dit qu'il prépare justement le retour d'Henri V. Et finalement, on en est bien loin.
Thiers était un homme extrêmement ambitieux et extrêmement malin. Les républicains le croyaient républicain. Les royalistes le croyaient royaliste. Thiers n'était que thiériste. Bon. Thiers était un homme qui avait une ambition folle, qui a un peu baladé tout le monde. Et qui s'était réservé la possibilité finalement de choisir le régime qui préserverait le mieux son pouvoir. Au début, il pense en effet qu'il pourrait être le chef du gouvernement du comte de Chambord. Et ensuite, il s'aperçoit que ce sont les institutions républicaines qui garantiraient le mieux son pouvoir personnel.
Donc, il s'oriente vers là. Et c'est finalement en 1873, la majorité, l'Assemblée arrive à chasser Thiers du pouvoir. Voilà. Et là, c'est le maréchal de MacMahon qui arrive. Nous sommes en 1873. Et lui est marié à une légitimiste, à une Castres. Et là, tout le monde croit finalement que la Restauration est faite.
Oui. Alors, si MacMahon était légitimiste, il le cachait bien.
Alors, lui, j'ai dit son épouse.
Mais MacMahon a la réputation de légitimiste. En fait, MacMahon est un opportuniste. MacMahon est un militaire. Il sert l'armée.
Qui avait servi le régime de Napoléon III, qui avait fait sa carrière sous le Second Empire.
Pour lui, la patrie, ce n'est pas la France. La patrie, c'est l'armée. Bon. Il faut bien comprendre cette psychologie des militaires de cette époque-là. Il a servi sous Louis-Philippe. Il a servi sous Napoléon III, il sert sous la République, il servirait sous n'importe quel régime. Non pas qu'il fût une girouette, mais voilà, c'est un homme d'ordre et de service. C'est un homme extrêmement conservateur, catholique, intransigeant, mais qui n'a pas de conception politique forte. Du moment que les conservateurs sont au pouvoir, il est prêt à accepter n'importe quelle forme de régime. Et puis c'est vrai, vous avez tout à fait raison de signaler l'importance de son épouse. Élisabeth de Castres doit avoir 20, ou je ne me souviens plus bien, mais peu importe, 20 ou 25 ans de moins que lui. C'est une jeune femme extrêmement mondaine, qui aime beaucoup. Enfin, lorsque MacMahon succède à Thiers à la présidence de la République, qui n'est qu'un titre provisoire, il faut quand même savoir qu'il multiplie par 4 les frais de fonctionnement de la présidence de la République. MacMahon, cet homme apparemment rigide et militaire, multiplie les balles, les dépenses de façon complètement inconsidérée dans une France qui est pourtant économiquement exsangue.
Et deux différences entre les deux hommes, c'est que finalement, Thiers, c'était un gouvernement assez républicain qui était arrivé au pouvoir. Et cette fois-ci, avec MacMahon, c'est la République des ducs.
Complètement, voilà. C'est la république de l'oligarchie, c'est la république des puissances d'argent et on dirait aujourd'hui c'est la république des responsables du CAC 40, si vous voulez. C'est un peu ça la république macmahonienne et qui est en désaccord fondamental, surtout sur le plan, en distorsion totale sur le plan sociologique, avec ce qui constitue la légitimité qui est faite essentiellement de propriétaires terriens. Et non pas de grandes puissances d'argent. Et alors là, le divorce, en effet, se fait entre Chambord et les royalistes. Et MacMahon, il y a un quiproquo incroyable, c'est que penser que MacMahon serait l'homme qui aiderait à la montée sur le trône du comte de Chambord. Et en fait, il s'est avéré comme son obstacle
et pourtant, tout cela avait été... tout cela semblait être prêt à se faire, entre autres grâce à la réconciliation officielle entre les deux branches. Et ça, c'est un épisode quand même très important. La visite du comte de Paris à Frohnsdorf auprès du comte de Chambord, où on a enfin l'impression que les deux branches sont unies.
Alors en août 1873, il a mis beaucoup de temps à le faire parce qu'une partie de sa famille n'était pas d'accord avec lui. Mais enfin, il prend la décision, lui tout seul, le jeune comte de Paris, d'aller à Frohnsdorf et de dire au comte de Chambord, son cousin, « Vous ne rencontrerez pas de compétiteur au trône de France. Je m'en remets à vous, je me mets à votre service. » À partir de là, la réconciliation entre les deux branches est faite et la monarchie,
rien
normalement,
n'empêche plus la monarchie.
Plus rien ne l'empêche. À tel point d'ailleurs que comme le gouvernement a changé, la majorité royaliste a réussi à se débarrasser de Thiers et à nommer Breuil comme chef
Albert
de gouvernement,
de
mais avec MacMahon comme président de la République. Mais la réalité du pouvoir parlementaire, c'est le duc de Breuil qui la tient. Plus rien n'empêche la restauration. Et à tel point que Breuil fait établir les notifications aux ambassades. On achète les carrosses, on achète les chevaux, on achète les uniformes et on prépare l'entrée triomphale du roi dans Paris. Et une commission de la Chambre vote même le texte qui sera soumis ensuite à l'Assemblée nationale, appelant Henri V au trône de France. Tout est prêt.
Et là, contre toute attente, Henri V va s'accrocher à son drapeau, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que pour nous, cette histoire de drapeau semble bien dérisoire par rapport à un trône.
Oui. Alors, on s'était mis d'accord sur tout, y compris sur la forme des institutions. Chambord avait mis un peu d'eau dans son vin en acceptant une monarchie constitutionnelle un peu au-delà de ce qu'il souhaitait au départ. Et les parlementaires avaient accepté une monarchie donc, dans laquelle le monarque garderait une influence politique importante. La seule question, qui apparemment est une question de détail, la seule question qui restait en suspens, c'était la couleur du drapeau. Peu de temps avant, en 1873, un député des Hautes-Pyrénées, on avait choisi parce que c'est le député de la région d'Henri IV et Henri V, qui était un grand admirateur d'Henri IV, était allé essayer de négocier un arrangement avec le prince, qui était un peu boiteux, mais qui était le suivant. On garde le drapeau tricolore, vous revenez en France sous le drapeau tricolore, et après, si vous voulez changer, ben vous vous mettrez
vous
d'accord
avec l'Assemblée.
Et alors là, il y a un quiproquo donc, qui se met en place, c'est que l'ambassadeur, le député donc, qui est parti en ambassade, veut évidemment expliquer qu'il a réussi à trouver un compromis, et quelques communications dont il n'est pas responsable, mais maladroites, expliquent que le comte de Chambord a accepté le drapeau tricolore. Donc quand il apprend ça à Frohsdorff, évidemment, il rugit immédiatement. Il écrit une lettre en disant « Jamais je n'accepterai le drapeau tricolore, etc. etc. » Cette lettre fait l'effet, un effet d'une bombe et d'un seul coup, tout s'arrête.
Là, cette fois-ci, la Restauration est enterrée, j'ai envie de dire, avec le comte de Chambord, pardon. Et plus, dès lors, plus personne ne s'intéresse à lui, d'ailleurs. Il ne meurt que 9 ans plus tard.
Oui,
il
alors,
est totalement délaissé dans son exil autrichien.
Il continue
autrichien.
Quand même, après 1873, à croire à la possibilité d'une restauration. En novembre 1873, il fait même ce voyage extraordinaire où il vient en catimini à Paris essayer de rencontrer le maréchal de MacMahon pour prendre le pouvoir un petit peu par surprise. Et puis MacMahon refuse de le recevoir, ce qui est pour lui évidemment une humiliation insensée. Ensuite, de retour en Autriche, il envisage à plusieurs reprises des coups de force militaires, mais il n'arrive jamais véritablement à se décider. Et puis le temps passe. On l'oublie. En 1875, l'Assemblée nationale devient majoritairement républicaine.
Et vote
les lois constitutionnelles, la République est instituée. Tout est fini, il ne reste plus qu'à mourir.
En 1883.
En 1883, dans 8 ans.
Alors juste avant, nous arrivons au terme de notre émission, peut-être pour terminer, disons deux mots de la succession du comte de Chambord.
Ah, alors ça c'est un problème terriblement épineux, parce que lorsque le comte de Chambord meurt, tout le monde considère, enfin 99,9% des royalistes français considèrent que c'est évidemment la branche d'Orléans qui lui succède. Et ils sont 3 ou 4 à Frohsdorff, auprès du défunt, et notamment son neveu, le duc Robert de Parme, à dire « Ah mais non, on se trompe. » Si vous regardez l'arbre généalogique, succède au roi mort sans enfant son cousin le plus proche. Le cousin le plus proche, c'est Don Juan de Bourbon, descendant du duc d'Anjou, c'est-à-dire descendant d'un petit-fils de Louis XIV, alors que les Orléans ne descendent que d'un frère de Louis XIV. Donc c'est l'aîné des Bourbons d'Espagne qui est le légitime héritier du trône de France. Et alors de là se pose un problème toujours irrésolu à nos jours. Puisque les Orléans disent « Oui, mais attention, d'abord, ils sont devenus espagnols. Or, on ne peut régner en France que si on est français. » Ils disent « Oui, mais ils sont aussi français. Ils ont gardé la nationalité française. » Ce qui était vrai. Et les Orléans disent « Oui, mais ils ont renoncé. » Le premier petit-fils de Louis XIV, qui est devenu roi d'Espagne, a renoncé pour lui-même et toute sa descendance à ses droits sur la couronne de France. « Non, répondent les légitimistes, ils ont renoncé, mais cette renonciation n'est pas valable. Elle n'est pas juridiquement valable. Donc, l'héritier du trône reste le Bourbon d'Espagne. » Et ce débat date de 1883, nous sommes en 2009, il n'est toujours pas résolu.
Merci au comte de Chambord. Merci surtout Daniel de Montplaisir de nous l'avoir présenté. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc d'une biographie du comte de Chambord parue aux éditions de Perrin. Je conseille cette lecture à nos auditeurs. À très bientôt, au revoir.